bonsoir à tous, bonsoir à toutes. La maison de santé de Montléon a fait débat hier soir au conseil communautaire de l'Aglo de Bé au détour d'une délibération sur une étude de faisabilité. Se pose la question de l'équité entre les communes. La grippe aviaire et le collectif Sauve qui Poule Poitou va rencontrer la présidente du département ce jeudi. Le point dans cette édition sur la situation du rail sur la ligne Saumur-Thouars-Bressuire-La Roche-sur-Yon. Enfin, nous parlerons musique avec la belle réussite des orchestres à l'école et le festival de poupées qui débute aujourd'hui et réinvestit le théâtre de Verdure après 3 ans d'absence.
La météo à l'issue du journal, début de journée gris, humide demain et puis le soleil reprendra les commandes au fil des heures. Un motard de 36 ans est décédé ce matin à Niort, rue Jean Jaurès, après une collision avec une voiture.
L'accident s'est produit vers 10h20. Le conducteur de la voiture, choqué, a été pris en charge par les secours, de même que les témoins de ce tragique accident.
À belle frayeur ce matin à l'école Belle Étoile de Coulonges-sur-Lautise avec un fait divers assez invraisemblable.
3 adultes et 7 enfants ont été piqués par des abeilles à la suite de la chute d'une ruche dans la cour de l'école. Ruche qui se trouvait dans le camion d'un particulier. Toutes les victimes ont été examinées et laissées sur place.
À Niort, les sapeurs-pompiers sont intervenus ce matin sur 2 feux distincts.
Mais seulement distincts, David, de 50 mètres, rue Martin. L'une des 2 maisons était squattée.
L'étude de faisabilité d'une maison de santé à Montléon votée à l'unanimité des élus de l'Aglo hier soir, à l'exception de la voix contre de Thierry Marolo.
Si le maire de la Forêt-sur-Sèvre, comme vous avez pu l'entendre dans nos éditions dès ce matin, a regretté qu'une partie du financement de cette étude le soit par l'intercommunalité, Thierry Marolo a également réclamé l'équité, rejoint en ce sens par le maire de Chichy, François-Marie, qui se bat pour une maison de santé à l'est de l'Aglo et qui a demandé des règles claires, les mêmes pour tous. On nous dit qu'il nous faut 2 médecins pour le faire afficher. Un seul est pourtant requis à Montléon, François-Marie.
Depuis maintenant 2 années, donc nous sommes 4 communes à nous être réunies, Boismef, Clessé, Amaillou et Chichet, pour pouvoir répondre à la désertification médicale qui nous arrive à grande vitesse, puisque le docteur Gabiro nous a annoncé qu'il arrêtait au mois de juin 2023. Il y a aussi un docteur qui s'arrête à la chapelle Saint-Laurent. Il y a le docteur de Felabès qui va arrêter dans les 24 ou 25 mois qui viennent. Donc évidemment, nous sommes très inquiets puisque le docteur Moreau nous a alerté sur le fait qu'il allait se retrouver avec 10 000 clients pour lui tout seul. Nous, nous souhaitons faire une maison de santé à l'est de l'Aglo puisque ça représente pratiquement 10 000 habitants, y compris à Mayou, qui souhaitent venir avec nous pour ne pas être en désert médical. Et donc, comme l'Aglo porte le projet, ben je souhaite que celui-ci soit pris en compte. Moi, j'ai compris qu'il fallait passer par la CPTS et la décision du secteur médical. Mais si c'est pour nous regrouper tout à Bressuire et à Montcoutan, on pense que ce service de proximité peut nous échapper. Et voilà le but de mon intervention.
Le maire de Montléon, président de l'agglomération, Pierre-Yves Marolo, n'a pas manqué, lui, de leur rappeler que ce projet était un projet de territoire et qu'il était plus avancé à Montléon.
Ce projet de maison de santé sur le Montléonais, il a, je dirais, une différence avec celui qui est par exemple mené sur Chiché. Et François Marie, c'est quelqu'un avec qui je travaille, donc là il n'y a pas de souci. Parce qu'il est porté par la CISA qui regroupe des médecins de Nueil-les-Aubiers et de Montléon. D'où le fait qu'on puisse mener ce projet de maison de santé qui est un projet important évidemment, puisque c'est la ville, encore une fois, je le rappelle, qui va acheter le bâtiment Lidl. Ça devrait se faire au printemps 2023. Et ensuite, la compétence étant de l'Aglo, l'Aglo ne prend pas tout en charge d'ailleurs au niveau de l'étude, puisque je fais remarquer que la commune prend à peu près 60% et donc l'Aglo 40% pour envisager comment va être faite cette maison à l'intérieur, puisqu'on aura à la fois un projet privé, sans doute porté par des kinés, et puis d'autres professions médicales, pardon, qui vont s'établir dans cette maison de santé.
Affaire à suivre, comme l'on dit.
Le chiffre du jour, Jacqueline, 3,9 millions d'euros.
C'est l'estimation du coût de l'inflation pour le département des Deux-Sèvres. La collectivité a sorti sa calculatrice pour mesurer la hausse des coûts de l'énergie et des matières premières inhérentes à son fonctionnement et à ses investissements. Les chantiers programmés sont toutefois maintenus, a indiqué le département.
Et on reste au département. Le collectif Sauve qui Poule Poitou va rencontrer la présidente Coralie Desnous ce jeudi.
En début de semaine, le département des Deux-Sèvres a débloqué une enveloppe d'1 million d'euros en soutien à la filière avicole. Elle se répartira majoritairement entre des élevages de pigeons et de volailles vendant en circuit court. Ces derniers effectuant des départs à l'abattoir en petits lots, de manière rapprochée, ont été forcés de pratiquer des tests à répétition, comme le décrit Hélène Bailly, éleveuse à Mazières-en-Guettine et membre de ce collectif qui s'était constitué pendant la crise pour défendre les élevages plein air.
On a eu des frais démesurés par rapport à la taille de nos élevages et au volume de poulets produits sur nos élevages. Exemple, comme on abat toutes les semaines pour être en vente directe sur nos marchés, sur nos AMAP, il a fallu faire venir les vétérinaires toutes les semaines et ensuite analyser au labo. Mais 60 écouvillons, parfois il n'y a qu'une centaine de poulets qui partent, alors que qui partent à l'abattoir, alors que les gros, bah, ils ont pareil, 60 écouvillons, mais sur je sais pas combien, 10 000 poulets qui partent tout d'un coup. Enfin voilà, encore une fois, nous on a eu des frais vraiment exagérés par rapport à nos volumes.
Le préjudice financier est donc important, de même que le préjudice moral, avec des abattages préventifs et des accusations portées sur le modèle plein air. Alors ces éleveurs vont-ils pouvoir repartir de l'avant ou vont-ils pour certains devoir jeter l'éponge ?
La force de notre collectif, c'est justement qu'il existe. Et grâce à ça, pour l'instant, je crois qu'une grande partie tient le coup. Par contre, et moi la première, j'en entends vraiment parler beaucoup qui disent si ça recommence, non là c'est bon, là c'est bon, on arrête. Et de toute façon, si la mesure de claustration de nos volailles est reconduite l'hiver prochain, on nous enlève encore l'essence même de notre travail. Et là, se battre et être tout le temps dans la désobéissance civile, ça va un moment, mais on va pas pouvoir tenir le coup, quoi, parce qu'on a des amendes à payer par derrière, les maisons de mœurs, c'est trop compliqué, on peut pas. Pour l'instant, on serre les coudes, quoi. Et on se dit que c'était peut-être une crise. Et dans toute crise, il y a une fin.
Le collectif Sauve qui poule Poitou, qui souligne aussi le soutien des consommateurs à travers l'adhésion sur le site internet. La rencontre avec la présidente du département est donc prévue ce jeudi.
Les passagers des trains régionaux de plus en plus fidèles malgré quelques à-coups.
Le comité de ligne qui s'est tenu mardi à Thouars a permis à la région Nouvelle-Aquitaine et à la SNCF de faire le point sur la situation du rail sur la ligne 10, c'est-à-dire sur l'axe Saumur-Thouars-Bressuire-La Roche-sur-Yon. L'élu régional et Thouars, Emmanuel Charret, a évoqué les trains dont on ne parle jamais, ce qui arrive à l'heure. Ces observations au micro colline de Dominique Hérault.
Et les TER sur la ligne Saumur-Bressuire sont ponctuels. On a des pourcentages de ponctualité supérieurs à ceux de Nouvelle-Aquitaine. Hein. Nous, on est de l'ordre de 95% contre 93% en Nouvelle-Aquitaine. La région Nouvelle-Aquitaine s'est engagée à ne fermer aucune ligne, donc toutes les lignes TER sont maintenues. Et pour ce qui nous concerne, nous, l'offre est même améliorée, hein, puisque on fait en sorte d'aménager les horaires des cars SNCF hein, qui vont entre Bressuire et Saumur pour qu'ils puissent arriver en gare et avoir des correspondances. Autre point positif, le maintien de la fréquentation sur cette ligne qui compte en moyenne 110 voyageurs par jour. Et ce chiffre se stabilise depuis quelques années et même en légère augmentation. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Tout comme le maintien des tarifs pour la saison prochaine.
De bonnes nouvelles donc, sans oublier que la région, via le label Néoterra, entend mettre l'accélérateur sur la transition écologique en passant certains trains en biocarburant ou en électrique, sans oublier le recyclage, car 30% des rames dont la durée de vie était voisine de 20 années vont être régénérées pour durer 20 ans de plus. Du côté des utilisateurs, le ton est un peu moins flatteur. Le bressuirais Christophe Béalu de l'association des usagers du train Nord Poitou relève notamment l'extrême complexité d'accès à toutes les offres de trajets par les outils numériques, une vraie petite jungle lorsque les guichets humains sont fermés.
À la fois, on a des trains TER et des cars TER qui sont gérés par la SNCF. On a des cars qui sont gérés par la région. Et puis, après, des transports locaux dans les intercommunalités ou les agglos. Et la connexion de ces trois informations est extrêmement compliquée. Alors, la région a une application qui s'appelle Modalis pour pouvoir trouver la bonne information et le meilleur trajet le plus adapté. Mais seulement, les billets ne sont pas vendus. Donc après, il faut se ressortir de cette application et aller acheter des billets sur la partie SNCF, l'autre billet sur la partie du site de la région. Donc c'est quand même relativement complexe. Et là, les réponses qu'on a eues, c'est qu'on n'aura pas d'harmonisation avant plusieurs années au regard de la complexité. Donc c'est un petit peu dommageable.
Pas toujours simple, effectivement. Autre constat, le succès populaire du train des plages qui draine 250 à 300 personnes vers les sables d'Olonne chaque week-end. Mais récemment, un gros coup de surchauffe probablement dû au sous-dimensionnement des rames par la région Pays de Loire. Il a conduit à une grosse colère et des malaises des voyageurs restés sur les voies en pleine canicule. Quant à la rénovation de la voie ferrée pour le fret entre Saint-Varan et Parthenay sur l'axe Thouars-Niort, la région a mis près de 7 millions sur la table pour que la SNCF réalise le réalise. Et pourtant, rien ne dit que les voies neuves qui transporteront des marchandises seront ouvertes aux trains de voyageurs. Enfin, la gare de Bressuire bénéficiera d'une mise en accessibilité des quais pour les personnes à mobilité réduite en 2024. Il serait temps. Un reportage signé Dominique Hérault.
La préfète des Deux-Sèvres attendue à Thouars ce vendredi après-midi.
Une visite axée sur la redynamisation du territoire au programme déambulation dans le quartier des Capucins et dans le centre ancien.
La fin de l'année sonne la fin des orchestres à l'école pour ceux en place depuis 3 ans déjà sur le territoire du Bocage Bressuirais.
Une belle aventure musicale, David, pour les élèves des écoles Notre-Dame de Montcoutant-sur-Sèvre, de la Marelle de Bressuire et Victor Hugo de Chanteloup qui répétaient ensemble mardi les morceaux appris tout au long de l'année à raison de 2 heures par semaine, 1 heure pour l'apprentissage de leur instrument et 1 heure avec leur orchestre. Stéphanie Pinocoulon, la directrice du Conservatoire de musique.
Un jour très particulier puisque les enfants des 3 orchestres se rencontrent, mais pour ces 3 orchestres-là, c'est la fin de ce parcours. Donc un dernier jour avec de la musique tous ensemble. Ils apprennent un morceau là en ce moment. Et puis cet après-midi, ils vont faire un petit concert devant une ou 2 classes de l'école de Courlay.
Ça a été une vraie réussite que ces orchestres à l'école.
Ah oui, c'est vrai que c'est quand même une aventure assez extraordinaire. On a démarré en 2013 sur le Bocage avec l'école Jules Ferry. Ça a fait des émules à Courlay notamment avec l'orchestre à l'école Trad. Et puis aujourd'hui, c'est vrai que toutes les communes nous sollicitent. Donc il faut faire des choix. Hélas, on ne peut pas aller au-delà de 4 orchestres à l'école. C'est déjà très conséquent pour un conservatoire comme le nôtre.
Une initiative, vous l'avez compris, du Conservatoire de musique du Bocage Bressuirais qui leur a permis de vrais apprentissages, comme le soulignait l'une des enseignantes engagées dans le projet, Hélène Kant, institutrice à Chanteloup.
Eh bien, il y a beaucoup de cohésion, d'aide entre eux. Il y a de la sociabilisation, c'est très instructif et très riche. C'est une chance formidable, vraiment. Et j'espère que beaucoup d'enfants pourront participer aux orchestres à l'école future.
Et ce n'est pas Robin qui la démentira, heureux d'avoir pu apprendre à jouer, vous l'avez entendu, de la clarinette.
Moi je joue de la clarinette, ça va faire 3 ans.
Est-ce que ça t'a plu ?
Oui, énormément. Parce qu'apprendre un instrument qu'on n'a pas l'habitude de jouer, ça change des cours qu'on a l'habitude de faire en classe, donc disons que c'est mieux.
Tu n'avais jamais imaginé jouer d'un instrument ?
À l'école, non.
Robin qui va quitter l'orchestre pour rentrer en 6e la saison prochaine et qui, comme ses copains, laissera la place à de nouveaux élèves qui viendront intégrer 4 nouveaux orchestres au sein des écoles du Guéclin de Bressuire, Violine de Clessé, Perrochon de Cerizet et Dumoulin à Lapsy. Depuis le début de cette expérience, David, un chiffre, ce sont 205 élèves qui ont pu en bénéficier.
Ah ben on reste au rayon musical, Jacqueline. Et près de 120 000 spectateurs sont attendus d'ici au 22 juillet pour la 35e édition du Festival des Poupées qui débute ce soir.
Sur place, les organisateurs peaufinent les derniers détails à l'image de Thomas Mindron, le directeur du festival, au micro de Vincent Nori. Déjà les pieds dans l'herbe pour ne rien manquer du programme.
On regarde tous les détails, on se balade, on se dit qu'il y a encore pas mal de choses à faire, mais il y a des équipes qui sont là, mais ça va y aller. On est à fond.
Et puis on retrouve le théâtre de Verdure, quoi.
Mais c'est surtout ça, on a hâte, parce que ça fait quand même 3 ans qu'on n'est pas venu ici, parce que Covid, et puis édition un peu exceptionnelle l'année dernière, avec un format exceptionnel qui n'était pas dans le théâtre. Donc, du coup, après 3 ans, on retrouve ce soir, finalement, cette ambiance, et en plus avec Yannick Noah, qui est le parrain du festival, donc le symbole, il est fort, ouais.
Il y a un peu d'appréhension, ou on se dit vivement ce soir?
Il y a un peu de vivement ce soir quand même, parce que c'est quand même des événements qu'on prépare durant 1 an. Et au bout d'un moment, il faut que ça y aille, parce qu'il nous laissera 2 semaines, on travaillera encore 2 semaines. Mais bon, il faut y aller.
Et puis, le fait d'ouvrir avec Yannick Noah, au-delà du fait que ce soit le parrain, c'est que c'est un ambianceur de folie.
Oui, ça va être le 13e concert. À chaque fois, c'est que des concerts incroyables, parce qu'ici, il est chez lui. Et je crois que tout le monde a envie de le retrouver. Donc, il n'y a pas doute que ça va être le feu. Ouais.
Et oui, c'est bien Thomas Mindron, une voix de fêtard. On aurait pu croire que c'était son père Philippe. Il y en a que Yannick Noah ce soir sur la scène du Festival de Poupées, de même que Gauvin Serre. Nous l'avions interrogé sur le Festival de Saint-Malo-du-Bois lors de son passage à Bressuire en mars dernier. Il avait répondu à Fabien Gazot.
Festival de Poupées, on l'avait fait aussi en ouverture du concert de Renaud il y a quelques années. Et j'avais vraiment adoré ce festival. Je me souviens très bien du théâtre de Verdure, comme ça, avec les gens dans un cadre vraiment très très beau. C'était vraiment à taille humaine. En plus, c'est grand, mais ça reste quand même... à taille humaine et ouais, j'ai hâte de retrouver cette équipe là et de venir cet été, parce que je crois que ça fait 2 ans en plus qu'on doit venir, donc là cette fois-ci on va conjurer le sort, je pense, cette année.
Et oui, ce sera la bonne année. En point d'orgue, le concert de Stromae, ce sera le 15 juillet. Il attirera à lui seul, écoutez bien, 40 000 spectateurs festivaliers.